Mesdames et messieurs, bienvenue donc au mini-symposium de l'Institut de l'énergie Trottier. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que nous sommes tous habités par le rêve d'un Québec qui carbure 100% à l'énergie propre. Mais ce rêve est-il réaliste? Si oui, dans combien de temps? Comment allons-nous l'atteindre? Quels seront les coûts pour réaliser ce rêve? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'énergie propre? Si une chose est claire, c'est que les questions énergétiques sont extrêmement complexes. La transition d'un modèle énergétique vers un autre est un problème à multiples facettes qu'on ne peut espérer résoudre qu'en s'engageant dans une réflexion profonde impliquant tous les acteurs de la société, scientifiques, technologues, entrepreneurs, politiciens et surtout citoyens. C'est pour piloter ce genre de réflexion avec rigueur que les instituts Trottier de McGill et de Polytechnique ont été créés. Chaque année, en alternance, comme on l'a mentionné, les deux instituts organiseront des symposiums d'envergure présentant le fruit de leur réflexion, en fait, de la réflexion de plusieurs chercheurs sur un thème relié à l'énergie et au développement durable. C'est pour vous donner un avant-goût du genre de réflexion qui seront abordées que nous avons préparé ce mini-symposium. L'objectif de la soirée est très simple. Nous avons convié des chercheurs de haut calibre, du Québec et d'ailleurs, qui se penchent depuis longtemps sur la question des énergies propres et du développement durable. Nous leur donnerons à tour de rôle la parole afin qu'ils puissent chacun à leur façon apporter des éléments de réponse à la question « Un Québec 100% énergie propre, est-ce possible? » À la fin des quatre exposés, nous laisserons la place aux questions du public et terminerons donc la discussion sous forme de panel. À ce titre, on vous a remis à l'entrée des petits cartons jaunes, comme ceux-ci. Si vous avez des questions durant le symposium, n'hésitez pas à les écrire sur les cartons. On va les récupérer à la toute fin des exposés et on pourra procéder ensuite à répondre à ces questions. Le panel pourra répondre à ces questions. Voilà. Alors, excusez-moi. Alors, je crois pouvoir vous affirmer que nous ne résoudrons pas la question énergétique au Québec ce soir même. Mais j'espère que les pistes de réflexion qui seront amenées en quelques minutes vous permettront d'entrevoir le potentiel de changement qu'une réflexion soutenue peut apporter au terme de 2 ans ou même plus. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter notre premier conférencier de marque, Hans-Bjørn Puttgen. Professeur Puttgen est détenteur de la chaire de gestion des systèmes énergétiques et directeur du Centre de l'énergie à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Avant son arrivée en Suisse en 2006, il a occupé pendant 25 ans la chaire Georgia Power de l'Université Georgia Tech aux États-Unis. La liste de ses distinctions dans le domaine de l'énergie est longue, mais suffit-il de mentionner qu'il est le récipiendaire de la médaille du 3e millénaire de l'IEEE pour ses contributions remarquables dans son domaine de recherche. Alors, professeur Puttgen disposera de 25 minutes pour nous faire part de ses réflexions. Merci.
Si vous me lancez la présentation. Monsieur et Madame Trottier, bonsoir. C'est un plaisir pour moi et un honneur pour moi d'être là ce soir, en l'honneur de votre décision que je crois réellement emblématique, parce que le monde aujourd'hui n'a pas besoin de sociologues, n'a pas besoin d'économistes, n'a pas besoin d'ingénieurs, mais ont besoin de gens qui domènent tous ces sujets à la fois. Et c'est bel et bien là votre objet. Et je vous en félicite. C'est rare de voir quelqu'un qui a cette vision comme vous. Et je pense que c'est une belle chose que vous avez créée. On m'a demandé de faire un peu un tour d'horizon très large au niveau de l'énergie dans le monde, qui est un sujet qui m'est cher. Le sénateur Moynihan disait « Everybody has the right to his own opinions, but not to his own facts ». Donc je vais un peu commencer ce débat en vous donnant un certain nombre de chiffres et essayer d'illustrer ce qu'ils veulent dire. Mes slides seront en anglais, la plupart certains sont en allemand, je vous prie de m'en excuser, un ou deux en français. Mais je parlerai en français, j'espère ainsi de pouvoir satisfaire les besoins bilingues de cette belle province de Québec. Alors la première chose, je crois qu'il faut regarder quand on parle d'énergie, c'est l'évolution de la population. Il est intéressant de voir que depuis le début de l'humanité jusqu'en l'an 1800, on a atteint 1 milliard de personnes. Et après, vous voyez que l'accélération a été très forte puisqu'on est aujourd'hui en train d'ajouter 1 milliard de personnes sur cette terre tous les 12 ans. Par contre, il est réjouissant de voir que ceux d'entre vous qui vous souvenez de la mathématique, la seconde dérivée est devenue négative, puisque l'augmentation de chaque milliard prend d'un an un peu plus de temps maintenant. Et on espère peut-être, à l'horizon 2050, d'arriver à peu près 9 milliards sur cette planète. Mais ce qui est également très important de voir, c'est qu'alors qu'en 1950, 60% des populations habitaient dans des régions émergentes, et encore 32% dans les pays développés, en 1950, ça sera 86% qui habiteront dans les pays en voie d'émergence et seulement 14% dans les pays développés. Donc non seulement la population va croître, mais sa distribution va fondamentalement évoluer et c'est un des plus grands défis que nous avons devant nous. Donc en 2050, nous aurons à peu près toujours 1,3 milliard de personnes qui vivent sur cette terre dans ce que j'appelle des régions énergétiquement affluentes, c'est-à-dire où l'énergie est disponible, probablement nettement plus chère, mais elle sera disponible. Il y aura toujours à peu près les 5,7 milliards de personnes qui vivent sur cette terre qui n'ont pas accès à une énergie abondante, fiable, aujourd'hui. Mais ce qui est plus grave, c'est que 2,3 milliards de personnes qui vont venir s'ajouter jusqu'à l'horizon 2050 vivront de façon dominante dans des pays énergétiquement pauvres. Et ça, c'est un véritable défi. Et je vous rappelle quand même aujourd'hui qu'il y a 1,3 milliard de personnes sur cette terre n'ont pas du tout accès à l'électricité. Donc si vous allez voir ces personnes-là avec une ampoule basse consommation, en disant que les basses consommations vont durer très longtemps, 1,3 milliard de personnes sur cette terre vous diront « ça c'est formidable, il y a juste un défaut dans l'image, j'ai pas l'électricité ». Et ça c'est un constat terrible que nous devons le relever. Alors si on regarde le système, la situation énergétique au niveau mondial, on voit, ne vous cassez pas trop la tête avec les unités. Nous, les énergéticiens, on aime bien changer les unités pour nous assurer que personne ne comprend ce qu'on raconte. Donc, ne vous cassez pas trop la tête sur les unités. Mais ce qui est important, c'est qu'entre 1973 et 2010, l'énergie totale sur cette terre a à peu près doublé. Il y a plus de charbon, plus de gaz naturel, moins de pétrole, ce qui est une bonne chose. La partie sans CO2, c'est-à-dire nucléaire et hydro, a pratiquement triplé. Donc, si on veut un environnement décarboné, on va dans le bon sens. Par contre, 280% de plus de gaz, 230% plus de charbon et 150% plus de pétrole. Nous n'allons pas pour l'instant vers un monde décarboné, nous n'allons pas pour l'instant vers un monde sans fossiles. Alors ça, c'est la distribution selon les régions. Et une première observation, si on fait un calcul très simple au point de vue de l'efficience énergétique au niveau mondial total, d'une façon très simple, on voit qu'entre 1973 et 2009, elle a en fait diminué. Pourquoi? C'est que, en fait, dans les pays où la croissance a lieu, c'est-à-dire hors des pays industrialisés, l'efficience est aujourd'hui très mauvaise. Donc, en fait, l'efficience totale au niveau mondial est en train de décroître, ce qui était bien sûr un souci. Alors, la croissance dans les pays industrialisés entre 1973 et 2010 a été de 130%. Elle a été le double dans les pays hors de l'OCDE. On voit que l'Asie est passée de 6,3 à 12% sans la Chine, et la Chine seule passe de 8% à plus de 17,5%. Mesdames et messieurs, quand nous sommes dans des réunions telles que celle-ci, nous avons souvent l'habitude de nous regarder le nombril. Mais là n'est pas le problème. Le problème que nous avons à faire face au niveau énergétique mondial ne se passe pas au Canada, ne se passe pas aux États-Unis, ne se passe pas en Europe. Ça se passe en Asie et ça se passe en Afrique. Il faut que nous gardions ça dans l'esprit et c'est pourquoi je salue particulièrement votre initiative. Alors si on regarde la production d'électricité, vous voyez qu'on a de nouveau changé d'unité, mais la production d'électricité dans le monde a cru de 350% alors que la consommation totale d'énergie n'a que doublé. On va vers un monde électrique et ça c'est une bonne chose. On va vers un monde électrique, il faut que nous y allions. La partie sans l'hydrocarbure a un petit peu diminué, peu, mais elle a diminué. La partie sans CO2 a nettement augmenté. Tout ça, c'est bien, on peut s'applaudir. Toutefois, entre 1973 et 2010, on utilise 372% de plus de charbon pour produire de l'électricité. Nous ne sommes pas en train de décarboner la production d'énergie électrique aujourd'hui sur cette terre. Voilà enfin une statistique que j'aime bien. Ça, c'est la croissance entre 2000 et 2010. Ça, c'est le gaz, ça, c'est le pétrole, ça, c'est les énergies renouvelables, ce qui est bien, ça, c'est le nucléaire, très peu. Donc, tout sauf le charbon, c'est ça, et ça, c'est le charbon. À peu près 50% de la croissance de la consommation d'énergie sur cette terre entre 2000 et 2010 a été faite sous forme de charbon. Alors maintenant, il y a deux façons que vous pouvez regarder ça. Une, vous pouvez vous dire, le père Pugin, c'est un méchant personnage puisqu'il nous dit que le charbon, c'est important. Mais ce qui est probablement plus constructif, surtout si vous êtes jeune, c'est de vous dire qu'il y a là un formidable défi à relever. Comment est-ce qu'on arrivera à brûler ce charbon d'une façon plus propre, plus intelligente? Parce que l'Inde, la Chine, n'ont pas d'autre solution, vont continuer à brûler du charbon et devront le faire d'une façon plus intelligente. Alors voilà la croissance que l'on pense entre 2007 et 2030. Ça, c'est du charbon en Chine, ça, c'est du charbon en Inde et le reste. Donc les pays en voie d'émergence vont brûler plus de charbon. Le seul endroit où faut se réjouir, c'est que dans les pays de l'OCDE, on va diminuer le pétrole et le charbon. Et la plus grande croissance, ce sont les énergies renouvelables. Mais il faut se garder dans l'esprit que nous partons d'une base extrêmement élevée. Il y a un certain nombre de gens, y compris mon épouse, qui trouvent que je devrais perdre un peu de poids. Alors quand vous commencez avec mes conditions initiales, perdre 5 kilos, c'est assez facile. Si on demande à vous, madame, de faire la même chose, c'est impossible. Donc il faut se garder un peu de savoir quelles sont les conditions initiales dont on parle. Voilà une statistique que j'aime bien noter. Ça, c'est l'augmentation, le changement entre 2007 et 2030 de la consommation au niveau mondial, par tête d'habitant. Donc ça va un peu augmenter dans le monde. On voit que dans les pays de l'OCDE, ça diminue. C'est toujours le phénomène de mes 5 kilos que je devrais perdre. Ma femme dit que c'est beaucoup plus. Et par contre, ce qui est grave, c'est qu'on pense que la consommation d'énergie par tête d'habitant en Afrique va diminuer. Et ça, c'est dramatique. Si nous voulons essayer de résoudre la pauvreté dans le monde, ça, c'est un des défis que nous aurons. Et je reviendrai sur ce sujet-là. Ça, enfin, c'est la partie CO2. Je ne vais pas trop m'hypothéser là-dessus. Mais on sait qu'aujourd'hui, la Chine est le plus gros émetteur de CO2 au monde, depuis 2007. Et on voit ici, ça, c'est les pays de l'OCDE en 2007. Et en 2030, ça sera beaucoup moins. Donc on veut dire, nous, pays de l'OCDE, on est vachement bon, ça diminue. Mais il faut se souvenir que le CO2 reste dans l'atmosphère entre 100 et 150 ans. Donc le CO2 qui est dans l'atmosphère aujourd'hui, ce n'est pas les Chinois qui l'y ont mis, c'est nous. Et donc quand on essaye d'aller voir les Chinois, les Indiens en disant « soyez un peu raisonnables parce que le monde ne va pas très bien », il faut qu'on se garde dans l'esprit que notre richesse que nous avons ici aujourd'hui, la vôtre, a été aussi créée avec des technologies incroyablement polluantes. C'est la révolution industrielle. Et donc, il nous appartient à nous de garder une certaine modestie vis-à-vis du futur. Et donc, moi, je ne crois pas que l'on arrivera à dire aux pays en voie d'émergence, faites un peu doucement, levons de ma balle, et vous devez nous aider en devenant plus raisonnables. Éthiquement, c'est un message qui ne tient pas la route. Alors, vous pouvez peut-être expliquer au cheikh de Dubaï qui n'a pas besoin d'aller skier quand il fait 45 degrés à l'ombre. D'ailleurs, M. Poutine s'est fait construire la même installation. Vous aurez beaucoup plus de peine à expliquer à cet hôpital en Afrique qui n'ont pas besoin de plus d'énergie. Vous pouvez peut-être expliquer à M. Schwarzenegger qui n'a pas besoin de 2 Humvees dans son parking à la maison. Vous aurez beaucoup plus de peine à expliquer à ce colporteur à Hanoï qui n'a pas besoin de meilleurs transports. J'adore cette photo parce que le gaillard a un téléphone portable. Mais ça, c'est un peu la bifurcation. Vous pouvez peut-être essayer d'expliquer à M. Ellison et Paul Allen qui n'ont pas besoin de tel bateau. Vous aurez peut-être plus de peine d'expliquer à cette famille à Hong Kong qui n'ont pas besoin de meilleurs logements. Mais ce qui est plus peut-être sérieux, voilà une reconstitution d'une photo de nuit de l'Asie. Ça, c'est la Chine avec Pékin et Shanghai. Ça, c'est bien sûr le Japon avec Tokyo. Ça, c'est la Corée du Sud avec Séoul, et ça, c'est la Corée du Nord. Ça, c'est tout simplement une situation qui, géopolitiquement, n'est pas soutenable, n'est pas durable. Donc, lorsque l'on regarde la Corée du Nord, avec tous les défauts qu'a la Corée du Nord, il nous appartient, si on veut résoudre la problématique de la Corée du Nord, on doit le faire au niveau géopolitique et au niveau énergétique. Et c'est là qu'il est important d'avoir des ingénieurs qui comprennent un peu la situation au niveau holistique. Donc moi, je crois fondamentalement qu'on assiste à une bifurcation des défis. Clairement, dans nos pays industrialisés, il s'agit d'avoir une meilleure utilisation de l'énergie. J'aime pas le terme d'efficience énergétique. Parce que beaucoup de choses que nous devons faire au point de vue utilisation intelligente de l'énergie n'est pas efficiente. Le stockage de l'énergie qui est essentiel n'est pas efficient. Donc c'est une meilleure utilisation, plus rationnelle. Les Français disent la sobriété énergétique. Et l'autre part, bien sûr, c'est les énergies renouvelables. Donc c'est plus de technologies pour une meilleure utilisation d'énergie. C'est beaucoup d'énergie renouvelable très largement distribuée et du stockage. Et bien sûr, des technologies plus chères, plus onéreuses pour nos pays. Dans les pays en voie d'émergence, le challenge est complètement différent. Il s'agit de satisfaire leur soif pour une meilleure condition de vie, comment dire en anglais, the lust for a better living condition, sans complètement détruire d'une façon irrémédiable notre environnement. Et ça veut dire limiter l'impact environnemental, ça veut dire des meilleures technologies adaptées à ces pays-là. Adaptées à ces pays-là. Et si j'étais jeune, et si j'avais de l'argent, j'en ai pas, c'est pourquoi je suis là, c'est là que j'investirais. Il y a un véritable défi technologique que nous, pays industrialisés, nous devons lever, de créer des technologies spécifiquement adaptées pour les pays en voie d'émergence. Nous, par exemple, l'énergie en Suisse, on est en train d'essayer de vendre au Mali, c'est vrai, des maisons mine-énergie. Alors, c'est des trucs formidables qui ont été inventés, en fait, pour la Scandinavie. Et si vous regardez les conditions climatiques, économiques, politiques de la Scandinavie et celles du Mali, il y a une certaine différence. Et donc, il s'agit de faire des maisons, des industries, des productions pour ces pays-là qui soient bien adaptées. Et ça doit être des technologies simples, robustes, qui sont ce que j'appelle « plug and play ». Alors, si on regarde l'Union européenne, je rappelle qu'en Union européenne, en l'année 2020, on s'est fixé comme objectif que les 3x20, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20%, d'améliorer l'efficience énergétique, en fait, de diminuer la consommation de 20%, et de faire que les énergies renouvelables représentent au moins 20%, pas de l'électricité, de l'énergie totale. Alors, où en est-on? Ça, c'est la barre des 20% au point de vue production. Et on voit que certains pays, comme la Suède et comme la Latvie, qui est un peu étonnante, y sont déjà et d'autres vont probablement arriver, mais d'autres auront beaucoup de peine à satisfaire cette contrainte-là parce qu'elle va en plus coûter très cher. Pardon. Mais ce qui est important, c'est que alors que les gouvernements adoptent ceci avec plus ou moins de difficultés. Ce qui est plus important, c'est que les institutions locales, les villes, y adhèrent. Et il existe en Europe ce qu'on appelle la Convention des maires. Il y a 4000 villes en Europe qui ont signé une convention qui est contraignante pour dépasser cet horizon 2020 à l'horizon 2020. Donc ça se passe au niveau local. Et ça veut dire que ça se passe au niveau des populations. Et ça, c'est absolument essentiel. Bien sûr, en Europe, on a un petit problème, c'est que la partie photovoltaïque, ça sera au sud. La partie éolienne, ça sera au nord. Alors que la plupart de l'habitation est au milieu. Donc, on a un énorme défi devant nous au point de vue réseau électrique. Je déteste les smart grids. Mais on a un énorme défi sur des meilleures technologies, des technologies plus intelligentes, plus adaptées au niveau réseau. Et vous avez le même défi au Canada. Il y a une autre bifurcation qui est en train de se faire, c'est le nucléaire. Alors, si on parle d'une énergie ou d'un environnement décarboné, il faut parler du nucléaire. En Europe, c'est devenu un peu un dirty word. Je rappelle qu'il y a 435 centrales nucléaires qui sont connectables aujourd'hui dans le monde. 104 sont aux États-Unis. 70 de ces centrales ont déjà reçu la permission d'aller à 60 ans. Et on pense qu'à terme, au moins 90 des 100 centrales iront au moins à 60 ans de production. C'est dans 30 pays. Et en 2010, la production nucléaire dans le monde et la production hydraulique étaient à peu près de la même ordre de grandeur. 14% pour l'un comme pour l'autre. Donc vous pouvez dire, sortie de la nucléaire, c'est pas si grave que ça. Ce n'est que 14%. Vrai. Mais c'est quand même 14%. Donc ça sera pas si simple de sortir. Vous verrez que Il y a une grande bifurcation également. Il y a aujourd'hui 61 centrales sont en construction dans le monde, 26 en Chine, 10 en Russie, 7 en Inde, 4 en Corée et 14 dans d'autres pays. 400 centrales sont proposées dans le monde, 400. Dans 44 pays, dont 18 n'ont aucune expérience nucléaire à l'heure actuelle. Et ça, je crois que c'est un véritable souci géopolitique. Est-ce que nous voulons réellement faire en sorte que ces pays-là aient accès à la technologie nucléaire? Je rappelle que Nicolas Sarkozy est presque arrivé à vendre une centrale nucléaire à M. Kadhafi. Il faut quand même là se poser certaines questions de la sagesse de ces décisions-là. Dans certains pays de nucléaire, dans 13 pays, c'est plus que 30% du total. Bien sûr, la France, la Slovaquie et la Suisse, c'est 40% qui a décidé de sortir du nucléaire récemment. Une décision très émotionnelle et qui sera extrêmement difficile parce que nous n'avons que du nucléaire et de l'hydraulique. Rien d'autre. Et donc, nous avons un des plus grands défis de la sortie du nucléaire mondial et à l'heure actuelle en Suisse. Vous savez dire donc que l'Allemagne va sortir, est en train de sortir, a déjà fermé certaines centrales, et les fermeront toutes en 2022. La Belgique a pris la même décision, mais les Belges sont des gens assez raisonnables. Ils ont écrit en petit, pourtant que ça pose pas de problème. C'est vrai. Et la France, M. Hollande, a annoncé récemment qu'il allait fermer la centrale de Fessenheim à fin 2016. Le fait qu'il y ait des élections présidentielles 5 mois après est une pure coïncidence de calendrier. Et également qu'on en ait diminué la partie nucléaire de 75 à 50% jusqu'à l'an 2025. Ça ne se passera jamais parce que la France est en fait en ruine et ça coûtera énormément d'argent et cet argent-là n'existe pas. Mais donc ça, c'est les pays qui ont vraiment décidé de sortir. Alors que je vous rappelle que le Japon a récemment élu un nouveau gouvernement qui a décidé en fait de relancer les centrales nucléaires qui existent déjà au Japon. Je vais vous donner un aspect au point de vue implication sociétale. Je vais vous laisser lire rapidement 4 affirmations. Je les ai pas traduites, lisez-les en 30 secondes. Et vous pouvez vous dire que ces affirmations-là sont d'un nucléariste acharné de l'industrie nucléaire. En fait, ça a été donné par Bernard Thibault, qui à l'époque était le secrétaire général de la CGT, qui est le syndicat du Parti communiste en France. Donc quand on touche un certain domaine qui crée beaucoup d'emplois, qui crée du développement de l'économie dans certaines communes, on touche des aspects sociétaux aussi qu'il faut tenir compte. La transition en Suisse est la suivante. Nous avons décidé de devenir ce qu'on appelle une société à 2000 watts. Aujourd'hui, la Suisse est à peu près à 6000 watts d'énergie primaire. Et donc, ce que nous voulons essayer de faire, c'est de redescendre à 2000 à l'horizon 2100. Il faut savoir que 2000, c'est à peu près la moyenne mondiale aujourd'hui au point de vue énergie. Alors, beaucoup de gens se sont dit, c'est impossible à faire. Mais moi, j'ai fait faire des petits calculs par mes étudiants. Et en 1962, la Suisse était une société à 2000 watts. Alors maintenant, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on vit 3 fois mieux ? Personne dans cette salle se souvient de 1962, mais moi oui. Je vous laisse voir si vous pensez qu'on vit 3 fois mieux aujourd'hui. La réponse est bien sûr non. Et donc ça, c'est un des grands défis que nous nous sommes fixés au point de vue sociétal. Et donc nous espérons pouvoir diminuer notre consommation de moitié à la fin du XXIe siècle et d'un tiers au début du XXIIe siècle. Nous espérons pouvoir diminuer notre production de CO2 jusqu'à 25% à la fin du siècle et un huitième au début du 22e siècle. Ce sont des challenges énormes. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour faire ça, il faut des voitures qui font de 10 litres à 3 litres 100. Il faut des immeubles qui diminuent de 30%, qu'on gère mieux les déchets et qu'on soit plus énergie renouvelable. Ce qui est passionnant avec ce slide-là, c'est qu'aujourd'hui, on sait tout faire ceci. Ce qui manque, c'est une volonté politique d'y arriver. Une volonté politique. J'espère qu'il n'y a pas trop de politiciens dans la salle, parce que je ne vais pas sortir vivant. Je vais sauter rapidement ceci. La grande défiance aujourd'hui, au point de vue photovoltaïque et éolien, ne sont plus ces technologies-là, Parce que ces technologies-là sont bien maîtrisées, sont matures et deviennent compétitives au point de vue coût. Le grand défi, c'est leur variabilité énorme. Ça, c'est la situation en Allemagne. Avec ça, c'est le photovoltaïque qui, bien sûr, ne marche pas de nuit. Et ça, c'est les pointes en éolien non plus. Adapter une telle variation à nos besoins de consommation, aujourd'hui, on ne sait tout simplement pas le faire. C'est un des grands défis technologiques qu'on a devant nous. Aujourd'hui, le défi du photovoltaïque et de l'éolien n'est plus cette technologie, c'est entièrement le stockage d'énergie. Une révolution qui est devant nous, ce sont les gaz non conventionnels. Et j'ai fait faire un calcul très simple par mes étudiants. On a pris les réserves prouvées de gaz de schiste, prouvées, pas potentielles, identifiées. On les a transformées en leur valeur calorifique et on a transformé ceci en production d'électricité par des centrales au gaz à cycle combiné. Et voilà le nombre d'années que ceci suffirait pour toute la consommation électrique dans chaque pays. Pas simplement remplacer, toute. C'est 32 ans aux États-Unis, au Canada c'est plus de 100 ans, en Argentine c'est 900 ans, en Afrique du Sud c'est 300 ans. Ces nombres sont tellement énormes qu'on va utiliser les gaz de schiste. J'ai aucun doute sur le sujet. Par contre, un des grands défis qu'on a devant nous, c'est comment est-ce que nous allons les utiliser d'une façon responsable au point de vue de l'extraction. Ces chiffres sont trop gros pour qu'on les énorme. Si c'était 3 ans, 10 ans, 40 ans, on aurait dit, c'est pas la peine qu'on s'enquiquine avec ça, mais c'est pas le cas. J'en arrive à la conclusion. Dans les pays industrialisés, clairement nous devons aller vers une utilisation plus rationnelle de l'énergie. On doit avoir plus d'énergie renouvelable, ce qui veut dire plus d'électricité, c'est une bonne chose. Les stockages d'énergie sont absolument essentiels à leur intégration, ce que tout le monde ignore. La décarbonisation n'est pas pour moi un but en soi. Elle viendra tout naturellement si nous faisons tout ce que nous devons faire de toute façon. Donc je ne crois pas à un but de décarboner en soi. Elle sera un résultat, une conséquence naturelle. Et l'autre aspect, bien sûr, c'est qu'il faut que la population s'engage. Donc il nous appartient d'informer cette population, qu'elle prenne ceci comme son propre défi. Et bien sûr, il faut que les décisions politiques soient durables. Nous travaillons sur des échéances qui sont des décennies. Le politicien travaille sur des échéances qui sont 4 ans. Donc on ne peut pas avoir des politiques stop and go, on ne peut pas avoir la politique énergétique du jour. Et ça, c'est absolument terrifiant, et c'est dans toutes les démocraties. Bien sûr, dans les pays en voie d'émergence, il faut que nous fassions face à leur aspiration de meilleures conditions de vie. Il faut que l'on fasse attention de ne pas avoir des dommages irrémédiables au point de vue de leur environnement. On doit développer des technologies pour eux. C'est une opportunité fantastique pour nous. Et il faut qu'on s'assure que les populations locales soient proprement formées et entraînées pour utiliser ces technologies. Et enfin, il faut que lorsque nous, pays riches, on fait des promesses dans des grandes envolées au cours de certaines réunions, on va donner tant de milliards, etc., etc. Il faut qu'on fasse ce que l'on dit. Mesdames et messieurs, vous avez été une audience très patiente. Merci à vous.
Alors, merci, professeur Pudgen, pour cet exposé absolument lumineux.